France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les dessins humoristiques politiques, ou qui, en tout cas, parlent de la société, du quotidien. Ces dessins qui doivent immédiatement faire rire ? Non, pas faire rire, répond l'un des invités de Michel Bijebois. Alors, que doit-on faire face à ces dessins, sinon rire ? Sourire ? Hausser les épaules ? Bien sûr, les dessins de Faizan, de Topor, de Tim, de Desclozeaux trouvaient leur place dans tel ou tel journal. Ces places n'étaient pas interchangeables. Ou bien, ils ne trouvaient pas place dans la presse, plutôt dans des recueils. Voici les 4e et 5e volets de la série, et qui sont ces dessinateurs, à coups de crayon. Michel Bijebois proposait dans les après-midi de France Culture ses émissions les 21 et 24 décembre 1973.
La grâce, la vérité, la pitié, la poésie sont les 4 points cardinaux du dessin humoristique. C'est Louis Morin qui a énoncé ceci dans un livre qu'il a consacré aux humoristes. Aujourd'hui, nos 4 invités réagissent différemment à l'énoncé de ces qualités. Jacques Faizan.
S'il y a de la grâce dans mes dessins, c'est fortuit, je n'y suis pour rien. La vérité, je m'y efforce. La pitié, je l'espère. Et la poésie, c'est au lecteur de le dire.
Topor ?
Sûrement pas, parce que la poésie, dès qu'on la nomme, c'en est plus. Vous avez la poésie délibérée, enfin j'y crois pas du tout. Ce qu'on trouve être de la poésie n'est jamais de la poésie, c'est de la pacotille ou du... C'est mort. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a eu un grand poète, il a agrandi l'idée qu'on se fait de la poésie. Il a fait ce que justement on pensait ne pas être de la poésie. De la même façon que chaque fois qu'il y a un véritable artiste estimable et tout, il travaille, il fait quelque chose que les gens, ses contemporains ou les plus bornés en tout cas, la grande majorité, trouvent ne pas être de l'art. Il a grandi l'idée de l'art. Il ne travaille pas à l'intérieur de règles, il change ses règles.
Et vous, alors vous donc avez la poésie, changé les règles du dessin humoristique ?
Non, pas du tout. Non, pas... Je dis ça parce que poésie, quand on nomme la poésie, je suis très, très, très méfiant. Pour les gens, la poésie, c'est quoi ? C'est un papillon, c'est le coucher de soleil, ou c'est quelqu'un... Il y a des modes, il y a le mot ventre qui revient, comme ça.
La grâce, la vérité et la pitié.
La grâce, je ne sais pas ce que c'est. Ça suppose c'est d'origine divine ? J'y crois pas. Pour moi, vraiment, ça n'existe pas.
Un adulte qui porte un bébé dans ses bras et ce bébé touche le soleil derrière un mur.
Oui. Non, c'était assez illustré l'article sur la... J'ai oublié, il y a très longtemps que j'ai fait ça.
Un enfant qu'on tend vers le soleil.
Oui, sur la génération.
C'est beau, c'est
oui,
gracieux.
C'était sur l'éducation.
Et je n'ai pas le droit de trouver de la grâce dans votre interprétation.
Vous avez tous les droits. Mais enfin, moi, très sincèrement, j'en vois pas. Alors, donc, pas de grâce.
Pas de vérité dans vos dessins.
La vérité, je pense qu'il y en a plus qu'une. Parce qu'il y a vraiment la seule chose à laquelle je crois, c'est qu'il y a même plus que deux vérités. Et que c'est la chose la plus importante, si vous voulez, à mon avis, c'est qu'il y a une infinité de vérités. Et tout ce qu'on peut faire, c'est les épuiser en apprenant à les connaître. Mais, et puis alors, qu'est-ce qui restait ? La pitié ?
La pitié.
Bah, oui, alors ça, disons la pitié, mais je vois pas beaucoup de pitié dans mes
lèvres. Tim ?
Ça me fait penser à Forain, qui, le jour où il a reçu sa Légion d'honneur, et ses confrères lui en ont voulu un tout petit peu, puisque ça ne va pas très bien avec un dessinateur satirique de recevoir la Légion d'honneur, c'est pratiquement un enterrement. Et ses confrères qui lui ont dit, mais Daumier, lui, n'a pas reçu la Légion d'honneur. Il lui a répondu, oui, mais évidemment, lui était généreux. Et finalement, les plus grands dessins qui sont restés dans l'histoire sont des dessins d'une fraternité envers ceux qui sont finalement les victimes.
Vous ne voulez pas juger vos dessins, mais alors moi je vais vous demander de décrire celui-ci que nous avons sous les yeux pour l'auditeur. Et l'auditeur jugera de lui-même si les qualités que j'ai nommées n'y sont pas.
Ça représente une mère vietnamienne qui tient son bébé dans ses bras et qui pleure, visiblement à la suite d'un bombardement. Pour faire figurer dans le même dessin, dans le même élément graphique, le bombardement, ce sont les yeux de la mère qui sont des avions et les larmes sont des bombes.
Des Clouseau.
Oui, bien sûr, la pitié, ou alors sans pitié comme ciné. Mais bien sûr, là, ça revient au même, dire d'avoir la pitié ou ne pas en avoir. Exactement pareil. Enfin,
je vois par exemple qu'un de vos précédents dessins complétait, et alors là je reviendrai sur ce mot, un article sur l'alcoolisme. C'est très grave aussi l'alcoolisme, et vous voulez en faire rire. Non, ça vous gêne jamais?
Non, pas en faire rire. Vous acharnez à vouloir rire. C'est pas quand vous employez
alors
le
que rire... doit-on faire devant vos dessins? Non, mais... rire, sourire, hausser les épaules, vous injuriez?
Je sais pas, je sais, moi je... Il y a le rire sur les lèvres, qui, la bouche qui se tend. Il y a le sourire qui est déjà un peu plus faible. Et il y a un rire, je crois, qui est, il y a un phénomène intérieur en se disant tiens, il fallait y penser. Tiens, c'est bien. Oui, il a raison. Il a tort. Et je sais pas si on ne le voit pas. Et je crois que moi, c'est ce qui me... Ce qui me touche parfois, c'est de voir que des personnes restent devant un dessin. Ils ont peut-être un peu réfléchi, et ça me fait aussi plaisir que... Bien sûr, je suis très content quand je fais un dessin qui a un éclat de rire, mais moi, je pense pas que le dessin d'humour entraîne forcément le rire.
La réflexion.
C'est ça. Je crois que c'est ce vers quoi je tendrai le plus.
Je disais il y a quelques instants qu'un de vos dessins complétait un article écrit contre l'alcoolisme. N'avez-vous pas le sentiment des fois d'être le bouche-trou?
Ah oui, oui, oui. Bien sûr, le dessinateur est trop souvent le bouche-trou d'une mise en page qui bat un peu de l'aile. Il y a un petit trou en haut, en bas. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre? On ne trouve pas de photo et on pense que le dessinateur, en trois petits coups de crayon, va arriver à résumer la situation. Mais je pense que pour un dessinateur de presse qui suit l'actualité semaine après semaine, il est intéressant aussi qu'un journal, c'était mon cas pour ce dessin sur l'alcoolisme, je ne pensais pas faire un dessin sur l'alcoolisme. On me le propose, c'est un sujet qui me touche parce qu'il était délicat à traiter et intéressant. Je suis ravi que le journal m'ait donné l'occasion de le faire, parce que sinon, moi, à ce moment-là, je pensais beaucoup plus au salon de l'auto, puisque c'était à l'époque du salon de l'auto, ou à la guerre qui venait d'être déclarée, ou à des choses comme ça, si vous voulez.
Vous ne risquez pas d'amoindrir la portée de l'article avec
non,
votre
parce
dessin.
Que j'essaie de faire un dessin qui puisse être reproduit sans l'article, et vice-versa, essayer de... vous pouvez lire l'article sans mon dessin ou voir mon dessin sans lire l'article, c'est ce que j'essaie de faire. Et quand on regarde mon dessin en disant « Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» c'est que, à mon avis, j'ai raté mon coup.
Si le lecteur peut dire « Ah, problème du pétrole, je sais très bien comment Tim va traiter ce dessin », c'est raté.
Vous ne vous considérez pas comme l'illustrateur, disons même le bouche-trou dans un journal?
Non. En tout cas, j'aimerais pas l'être, c'est pas dans mon opinion, mais je risque d'enlever les nuances qu'un éditorial ou un article apporte dans une affirmation. Un article a le temps de développer les arguments et d'adjoindre les réserves, les possibilités contraires, alors que c'est vrai qu'un dessin ne peut pas le faire. Alors dans ce sens-là, vous avez raison, un dessin risque de simplifier trop une situation qui ne l'est pas. Mais par contre, il peut attirer l'attention sur un événement plus marquant qui risquerait de se diluer au fil d'un article ou au fil de ou à force d'employer les nuances ou à force d'employer les comparaisons, les réserves, les à côté, risque de faire faire disparaître l'événement dans un magma d'événements parallèles, alors que le dessin, par son inconvénient de ne pas pouvoir mettre de nuances, a cet avantage que, comme l'affiche qui vous frappe sur un élément graphique, mental.
Le dessin est le coup de massue de l'information.
Oui. D'abord, le fait de choisir un sujet pour un dessin est déjà un choix et qui est une façon de souligner, de l'extraire de tous les événements qui l'entourent. Alors, le fait de le voir visuellement, et on n'a pas besoin de suivre mot à mot pour recomposer dans son esprit l'événement, l'image vous frappe dans la seconde. Si vous voulez, l'idéal, c'est comme pour l'affiche, c'est que le type qui passe en voiture dans la rue voit la couverture d'un journal ou voit le dessin d'un journal. Il faut que dans la fraction de seconde, il puisse savoir de quoi il s'agit, de qui il s'agit et qu'est-ce qu'il faut en penser.
Enfoncez-vous ça dans la tête.
Topor,
que doit faire le public pour vous être acquis malgré tout?
Franchement, ça va être complètement égal.
En face de votre dessin, quand vous avez fait un dessin,
Je sais, vous
le montrez à un ami, est-ce que vous surveillez sa réaction?
Je ne surveille pas sa réaction. En général, si c'est un... Ça dépend. Il y a des amis qui aiment mes dessins, et j'ai des amis qui ne les aiment pas. Ça m'est complètement égal. Hein.
Mais ne vous remettez pas en cause. Et vous ne vous remettez pas en cause devant leur réaction.
Non. Non, parce que... Vous savez, c'est la question du sujet. On confond trop souvent le sujet et le dessin aussi, parce que... Il y a des gens qui peuvent très bien... Moi, je sais qu'il y a des dessins que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin de trouver le sujet éblouissant. Mais il y a des dessins que j'aime, des dessins qui représentent, par exemple, une femme nue que je peux aimer, et pourtant la femme nue peut être moche. Les gens confondent trop souvent. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas Rubens sous prétexte qu'il fait des femmes trop grosses. Il y a des gens qui n'aiment pas Cézanne parce qu'il représente des pommes, et puis eux, ils aiment les pêches. Alors, il ne faut quand même pas confondre le sujet et le dessin. Un dessin, c'est un tout. C'est pas la façon de montrer un spectacle. C'est pas comme la télé.
Tim.
Il ne faut pas exagérer l'importance du dessinateur. Ce n'est pas le directeur de conscience, ce n'est pas le prêcheur.
On le cite à la Chambre des députés maintenant.
Oui, mais parce que justement, le dessin se voit tout de suite alors qu'un texte, il faut le parcourir. Je suis sûr que le rapprochement de trois images à la télévision ont autant d'impact qu'un dessin.
Jacques Faizant.
De toute façon, il est entendu une fois pour toutes que j'ai trois colonnes en une. Donc, c'est pas quand tout d'un coup il y a un trou à boucher ou quand tout d'un coup la page est un peu noire. Alors, pour ça, je me fais pas tellement de soucis. Et ensuite, je m'efforce quand même que le dessin soit, comme je vous l'ai dit, en fonction de l'actualité. C'est pas n'importe quel dessin qu'on met parce que ça va faire joli. C'est un dessin qui parle soit de M. Segui, si M. Segui est dans l'actualité, soit de M. Moshe Dayan, soit de M. Nixon. Je pense que le dessin est important pour les journaux parce que ça aère la mise en page. Et puis, ça donne un côté satirique que les Français aiment bien.
À force de lire des articles sérieux sur l'informatique, j'ai appris que dans toutes les grosses boîtes, il y avait un ou deux ennemis acharnés de l'ordinateur, qui n'a qu'une idée, c'est de lui mettre dans la bouche soit une punaise, un trombone, un cure-dent, qui dérègle l'appareil. Et je me sens tout à fait proche de ces individus qui doivent avoir des deux grandes canines, qui doivent avoir des grandes capes doublées de rouge et qui doivent, le soir, en sortant du boulot, glisser le cure-dent dans la gueule de l'ordinateur. Alors ça m'amuse assez. Mais je le fais d'abord, je travaille dans l'informatique, je fais des dessins pour égayer leurs articles bien, bien pénibles et bien lourds à l'estomac. Et en plus,
donc vous êtes très utile là. Vous faites avaler, vous êtes la bonne enveloppe
mais
là.
Mais je peux pas non plus. Ma position est délicate parce que je fais ça pour gagner ma croûte. Parce que c'est un travail publicitaire.
Donc le dessinateur Mossig est obligé de se contredire.
Et oui, en partie. J'ai une famille. Il faut que je ne gagne pas assez, si vous voulez, dans un journal pour pouvoir. Il faut que je fasse à côté de ça quelques travaux de publicité de temps en temps qui pendant deux ou trois mois me laissent une certaine liberté. Je peux travailler sur des bouquins, sur des illustrations. Des choses personnelles sur ce petit acquis que j'ai. Mais alors le dilemme, c'est de On me demande, on voudrait que je dise que l'ordinateur est une chose formidable. Bien sûr, je ne veux pas le dire. Alors, je tourne autour pour le mettre un peu en dérision, gentiment, sans qu'on le voit trop, mais en continuant à suivre ma ligne de conduite. Et en général, je dois dire que les PDG sont très flattés quand on les met en boîte dans ce domaine-là. Ils sont très flattés de voir qu'on les malmène un peu. Ça leur fait ça leur donne des petits frissons. Et en général, ça se termine toujours bien. J'ai beaucoup d'amis. Et puis, j'ai un passé maintenant dans l'ordinateur et l'informatique. Je sais pas, je dois être à plus de 150 dessins sur ces grosses bêtes.
Quel est le caractère du dessinateur humoristique? Il semble que ce soit un peu un être à part, qu'il soit contre certaines choses. Certains sont contre beaucoup d'éléments du progrès. C'est aussi souvent un neurasthénique, le dessinateur humoristique, non?
Oui. D'abord, c'est un être asocial. Tous les métiers graphiques et tous les peintres sont par excellence des asociaux. Ça vient du fait que c'est un métier solitaire qu'on fait dans son atelier, on peint dans son atelier, et la solitude déforme les individus.
Engendre des idées noires.
Je ne sais pas si c'est les idées noires qui vous accule à la solitude, ou si c'est la solitude qui vous donne des idées noires. Mais c'est certainement une incapacité de communiquer avec les autres par les mots, avec le verbe, qui les pousse d'abord à s'exprimer en images, et par conséquent, à force de s'enfoncer dans le langage de l'image, ils s'expriment avec des onomatopées en s'adressant aux autres, à leurs amis. C'est pour ça qu'ils boivent, c'est pour ça qu'ils ne savent pas parler, c'est pour ça qu'ils restent dans leur atelier à chercher la meilleure solution graphique de la composition du tableau.
Et qu'ils peuvent se suicider.
C'est arrivé, hélas, dans le métier. Je ne sais pas si le pourcentage dans notre métier est plus grand qu'ailleurs, mais il est incontestable que l'inquiétude d'une idée à chercher, à trouver, et l'impatience et l'impuissance qui peut souvent vous donner l'impression que vous n'y arriverez pas, crée un état d'angoisse qui, hélas, a provoqué...
Et un certain découragement à voir que, malgré vos efforts, au fond, vous n'avez pas beaucoup d'influence sur la société, sur le monde.
Ça ne serait pas très réaliste de la part du dessinateur qui s'attendrait à ce que les foules, en regardant son dessin, sortent dans la rue et renversent le gouvernement. Il ne faut tout de même pas s'attribuer des rôles aussi importants et avoir une impatience qui ne serait pas réaliste. Finalement, je ne crois pas que le désespoir des dessinateurs soit plus grand que de n'importe quel autre citoyen.
Vous poursuivez la légende du clown triste ?
Il y a parmi les dessinateurs qui la poursuivent, mais je ne crois pas que ça soit nécessaire. Ça existe, mais je ne crois pas que ça soit nécessaire à l'exercice de cette profession.
Non, faut pas non plus généraliser. Non, moi j'essaie. Non, ils sont lucides. Oui, mais la lucidité peut mener loin. Ça, oui. Il y a deux des très grands dessinateurs français qui ont vu ça de trop près.
Non. Pour qui? Ah, comme Chaval et Bosque. Ben oui, ils ont eu des problèmes. Mais c'est
sur... Ils sont allés trop loin?
Non, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Ils ont des problèmes, c'est des gens qui existent, c'est pas que des dessinateurs, ils vivent pas d'encre dans les veines. Ils avaient du sang et ils sont morts. Mais ça, c'est... Je les aimais bien d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas le dessin qui fait mourir les gens.
Vous aimez les autres écrivains de votre genre?
Les dessinateurs?
Oui.
Non, c'est... Et oui, il y en a beaucoup que j'aime.
Vous vous rencontrez, vous discutez?
Ah non, j'aime les voir comme ça, non, j'aime pas beaucoup parce qu'ils parlent métier, ils sont tristes. En général, ils parlent boulot, ils disent il y a telle revue, on va renvoyer le dessin tout abîmé. Et là, non, ça, j'aime pas beaucoup. Par contre, un ou deux dans une assemblée, dans une assemblée d'autres choses, c'est pas mal, ça va. Mais les assemblées d'humoristes, c'est profondément déprimant.
Ce quatrième volet de la série À coups de crayon de Michel Bijbois fut diffusé pour la première fois dans les après-midi de France Culture le 21 décembre 1973. Trois jours plus tard, était proposé aux auditeurs le cinquième et dernier volet de cette série. Le voici.
Chaque année, vous faites une sélection de vos dessins fait au jour le jour, suivant l'actualité.
Oui.
Et vous les réunissez dans un petit ouvrage.
Oui.
Est-ce que ces ouvrages vont devenir historiques?
Ah, ça, j'en sais rien. Je le souhaite, mais j'ai pas l'outrecuidance de croire que, bien sûr, ça va devenir historique et qu'on va se référer à mes ouvrages dans 100 ans. Je n'en sais rien. Peut-être et peut-être pas, vous savez. Alors ça, moi, je suis très sceptique quant à les gloires posthumes. Et la continuité dans le temps, je ne sais pas du tout.
J'ai lu, par exemple, qu'on regrettait qu'il n'y ait pas eu de dessinateur humoristique à l'époque de la Révolution de 89. C'était dommage qu'il y avait beaucoup d'incidents qui ont dû se passer à cette époque-là et dont on aurait tiré profit. Vous me direz, c'est comme la photo, le cinéma qui n'existait pas.
C'est encore plus dommage. Il y aurait eu le cinéma et la photo au moment de l'épopée napoléonienne. Évidemment, c'était merveilleux. Déjà, vous savez, quand on voit des photographies de Napoléon III ou de la guerre de Crimée, c'est assez bouleversant. Mais bien sûr, s'il y avait eu des... Mais vous savez qu'il y avait quand même plus facilement des dessinateurs en 89 que des photographes. Ils ne dessinaient pas beaucoup, il faut dire. Mais enfin, il y a quand même eu des... On peut retrouver plus facilement des dessins. Et puis il y avait la peinture avant, qui est aussi... Il y a des peintures qui sont anecdotiques et qui représentent des scènes d'époque. Et puis du dessin, mais le dessin de presse, c'était quand même, avant, c'était de la lithographie, c'était pas simple. On pouvait pas faire 5-6 dessins comme ça et les envoyer, c'était tout un boulot. Les techniques d'impression n'étaient pas les mêmes, enfin, ça s'est affiné tout ça.
Vous refusez pas d'ajouter votre petite pierre aux études, aux éléments d'histoire de l'avenir?
Ah, moi, je refuse rien. Si les historiens de l'avenir veulent s'en servir, libre à eux, et merci beaucoup. Mais sinon, c'est pas ça qui m'empêche de dormir.
Tim?
Je crois pas que je sois le seul qui puisse servir de documentation pour les générations futures. Mais dans un ensemble des différents dessinateurs et des différents points de vue, je le crois. Je ne serai peut-être pas le chroniqueur de l'ameublement d'aujourd'hui, ni des ustensiles de cuisine, ni de vêtements, peut-être pas de coiffure, de cheveux longs. Je ne suis pas un dessinateur d'observation sociologique. Je suis, je crois, un caricaturiste de la vie politique au sens propre, je veux dire, le plus proche du mot politique, des hommes politiques, de mouvements politiques, des événements politiques, et non pas du menu beefsteak frites à déjeuner. Il y a d'autres dessinateurs pour ça.
Topor.
Je ne crois pas avoir marqué mon époque. Je ne crois pas avoir été tellement marqué non plus.
Vous auriez pu faire ça à peu près à n'importe quelle époque? Vous ne pensez pas qu'on peut dater vos dessins en les regardant?
Bien sûr qu'on peut les dater. Il suffit de représenter ce que l'historien qui écrira sur cette époque pense de cette époque. Et s'il trouve que j'illustre à merveille ce qu'il pense de cette époque, il me prendra. S'il pense autre chose, il prendra faisant. Je veux dire, dans les livres d'histoire, si vous regardez les dessins dont on sert pour illustrer les périodes, prenons le 17e ou le 18e, bon, on illustre avec une peinture, avec une gravure d'Abraham Bosse, avec un truc comme ça, un calot. Et puis, s'il y a un autre historien, il illustre avec, qui a une conception différente, il illustre avec des caricatures de... des caricatures populaires, avec des images populaires, et des trucs comme ça. Donc ça dépend. Tout le monde, Marx, est dans son époque, bien sûr. Mais...
Vous représentez une femme enceinte d'un petit automobiliste, par exemple.
Oui, c'est un des rares cas, ça.
Vous avez critiqué la voiture ?
Non, vous pas critiquer. Où il y a une voiture. Je déteste dessiner les voitures. J'aime pas dessiner les sapins non plus. J'aime pas dessiner les voitures, ni les escaliers. J'essaie de... Je choisis la facilité. Je dessine jamais les trucs qui m'embêtent.
Déclosons.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Mais j'avais rien contre.
Historien, je vois ces barbes chenues du Quai Conti.
Vous en avez une très belle.
Oui, mais elle n'est pas encore blanche. J'ai pas encore de laurier sur la tête ni d'épée aux côtés.
Picasso. Colombo Laurier, Figuernica, la mort aux cornes, pour que dans un monde sans bornes, la nuit ne vienne plus jamais, la nuit ne vienne plus jamais.
Êtes-vous peintre ? Faites-vous des tableaux ?
Pas du tout. Je n'ai aucun sens de la couleur. Je ne m'intéresse pas à la peinture, et je ne sais pas peindre, et ça ne m'intéresse pas.
Est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Est-ce qu'il vous manque une dimension dans vos dessins ? Je ne sais pas, enfin là, vous dites que la couleur ne vous manque pas, par exemple. Est-ce qu'il vous manque...
Ah ben ça me manque, j'aimerais beaucoup, bien sûr, savoir peindre. J'aimerais bien être Kiraz, vous comprenez ? Par exemple, les pages en couleur de Kiraz. Kiraz est un peintre que j'admire beaucoup, qui est un dessinateur peintre. J'admire beaucoup lorsqu'il m'arrive d'avoir, parce qu'on me le demande quand même, des dessins en couleur à faire. Je regrette beaucoup de ne pas avoir le talent de Kiraz dans ce domaine. Mais c'est comme ça.
Picasso, Colombo Laurier, Figuernica, la mort au corps.
Non. Non, non.
Vous allez me répondre qu'est-ce que c'est qu'être peintre ?
Non, non, non. Non, être peintre, ça veut dire manier la couleur, la peinture. Ça, c'est mon père. Les deux tableaux au mur sont mon père, mais c'est pas moi.
Il y a beaucoup de dessinateurs au crayon qui ont des parents peintres. Pourquoi ?
Oui, c'est normal.
Une réaction d'abstraction ?
Non, je pense. Disons que ça dépend s'ils aiment cette peinture ou pas, aussi ça compte. Puis ça dépend de l'ambiance dans laquelle ils ont été élevés. Disons qu'un dessin est plus près d'une idée qu'un tableau. Le dessin est beaucoup plus proche du moment où l'idée est conçue, n'a pas à construire un objet autour de cette idée comme un peintre. Un peintre, la toile elle-même, le tableau devient un objet.
Non, j'ai un papa qui était peintre, qui malheureusement ne peint plus, qui est devenu vigneron. Je ne sais pas s'il a bien fait ou s'il a mal fait. Moi, je suis beaucoup plus attiré par le côté graphique, par le dessin, par le trait, que par la masse de couleurs.
Vous aimez mettre des petites taches rouges dans vos dessins de temps en temps ?
Oui, mais pas dans le sens coloriage, dans le sens apport. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour ces messieurs qui troublent les ordinateurs, j'ai fait un petit gag qui représente un exhibitionniste qui en trouve sa gabardine et qui présente ses génitoires à l'ordinateur effrayé qui se met à tourner encore plus vite. Eh bien, j'ai pensé que mettre un peu de rose sur l'exhibitionniste, c'était pas une mauvaise chose, si vous voulez. Ça accentue le côté à poil du bonhomme, et voilà comment je vois la couleur. Mais maintenant, faire un match de football et prendre un pinceau vert pour faire la pelouse, je trouve ça tout à fait inutile.
Picasso, Colombo Laurier, Figuernica, la mort aux cornes. Pour que dans un monde sans bornes, la nuit ne vienne plus jamais, la nuit ne vienne plus jamais.
Steinberg s'est mis à la peinture. Vous peignez ?
Non, pas du tout, je fais de la sculpture. Mais je fais la sculpture... Exactement comme mes dessins, je fais des caricatures en sculpture. La caricature, pour moi, n'est pas un mot péjoratif, ni un art mineur.
Est-ce qu'il manquerait une dimension, justement, à vos dessins, puisque vous faites de la sculpture? Est-ce que le format, la couleur sont quelquefois des handicaps pour le passage de votre dessin, l'interprétation de votre pensée? Est-ce qu'il vous manque quelque chose, une dimension?
Non, c'est un autre langage. La peinture est un langage. Si je mettais la couleur dans le dessin, ça serait un dessin colorié et ça abîmerait les noirs et les blancs, d'après moi, des dessins. La peinture emploie... C'est vraiment un autre langage. La préoccupation de la peinture, c'est la couleur. C'est avec la couleur qu'on délimite les lignes dans la peinture. La ligne noire sur fond blanc dans le dessin, d'après moi, doit être un véhicule suffisant pour exprimer soit les idées, soit l'impression, soit l'attitude envers la chose dessinée ou la chose à exprimer. Je ne suis pas contre les dessins coloriés, je ne suis pas contre la peinture, je me nourris constamment des visites dans les expositions, j'ai un plaisir immense à visiter, à regarder la peinture, mais ce n'est pas mon domaine.
Ça fait 8 ans que je dessine, j'ai commencé à dessiner donc pendant mon service militaire sur du papier à lettres, donc un tout petit format. Et je pense que c'est peut-être ça l'origine des petits dessins. Enfin, j'ai pas... Mais vous avez vu aussi, je fais des petits modelages, des petites sculptures, mais qui ne dépassent jamais 5-6 cm, toutes petites choses.
Le dessin évolue continuellement. Si vous prenez les dessins de maintenant de n'importe lequel d'entre nous et ces dessins d'il y a 10 ans, vous verrez qu'il y a une différence énorme. Seulement, cette différence n'est pas remarquée parce que la progression est quotidienne, la différence est quotidienne, l'évolution est quotidienne. Les vieilles dames, à leur début, avaient des jambes énormes, avaient des grosses jambes noires, elles avaient de l'éléphantiasis. Et maintenant, tout le monde est persuadé que les petites jambes filiformes, elles les ont toujours eues, qu'elles datent du début. Seulement, ces jambes ont diminué peu à peu et les gens ne se sont pas aperçus. Le dessin évolue continuellement et c'est bien. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais dessiner. Il ne faut jamais se dire, ça serait affreux, vous comprenez, un dessinateur de presse qui dit, bon, ben voilà, maintenant je sais dessiner, mon dessin est parfait, je n'en change plus, jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est dingue, vous comprenez, c'est pas possible. Il vaut mieux qu'il aille vendre des cacahuètes. Le dessin évolue et, j'espère, se perfectionne. On n'a encore jamais vu que le dessin devienne de plus en plus mauvais. Mais le dessin s'améliore plus ou moins vite. Le style change, la facture change, la désinvolture change, le coup de plume, la façon de dessiner, et c'est heureux.
Vous amusez-vous toujours?
Moi, je m'amuse dessinant.
Oui.
Ah oui, je veux dire que c'est le fait de dessiner qui m'amuse, n'est-ce pas? Ce ne sont pas mes dessins. Je ne ris pas en regardant mes dessins. Je ne passe pas un bon moment à regarder mes dessins. Mais le fait, j'adore dessiner. Je ne ferais pas ce métier sinon. J'aime beaucoup dessiner. Dessiner m'amuse, dessiner, écrire, toutes ces choses-là m'amusent beaucoup.
Et nous parlions tout à l'heure de la qualité poétique, mais vos dessins ne font pas toujours rire. On se souvient toujours du dessin publié au lendemain de la mort du général de Gaulle.
Oui, vous savez, le lendemain de la mort du général de Gaulle, la difficulté n'était pas de savoir ce qu'il fallait faire, la difficulté était de savoir ce qu'il ne fallait pas faire. C'est comme ça que ce jour-là, il fallait procéder. Le général de Gaulle étant mort, le problème, c'était de dire, il ne faut pas dessiner le personnage du général de Gaulle, qui est forcément une caricature, donc un peu grotesque, donc ça va bien tant qu'il est vivant, mais pas le jour où il est mort. Il ne faut pas dessiner des hommes politiques en train de parler, il ne faut pas faire de texte, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire?
S'abstenir.
S'abstenir ou faire un dessin symbolique, qui était un arbre déraciné.
Il reste que j'ai trouvé une très bonne façon de passer ma vie, enfin qui me plaît, qui me rapporte suffisamment d'argent pour vivre, pas trop, mais enfin. Et puis qu'avec ce que je fais, je m'amuse. Et je me crée des problèmes, je les résous. Enfin, c'est un truc entre moi et moi. Alors, le public et le reste n'intervient pas du tout.
Mais vous n'allez pas changer.
Alors, je ne m'exprime pas.
Vous
ne
changerez pas.
Et jouer, bien sûr qu'on s'exprime en jouant, mais on s'exprime au deuxième degré. On ne s'exprime pas directement, on s'exprime de la phase, d'une autre façon. Et je déteste l'idée que les gens d'un artiste qui doit s'exprimer. C'est bien de pouvoir s'exprimer. Moi, je ne m'exprime pas.
N'êtes-vous pas limité par le cadre d'un journal ou d'un livre ou...
Non, puisque maintenant je m'en passe, j'ai plus de journaux. Je travaille plus pour les journaux, je publie de moins en moins de livres.
Vous dessinez sur les murs ?
Non, je dessine chez moi et je les expose, ou bien quand on veut les... Mais on les édite ou on les publie après, si vous voulez, et par hasard, en fait. Moi, je fais ça... J'en fais un certain nombre, et puis, il y en a que je fais sur commande, parce qu'on en commande, mais je n'ai pas une nécessité d'exprimer une matière bouillonnante d'un univers intérieur toujours en... Non, pas du tout. Je n'ai pas d'univers intérieur.
Quand on regarde vos dessins, on ressent malgré tout, malgré ce que vous disiez, un malaise. Et vous paraissez très heureux dans votre peau.
On ressent un malaise parce que les images qu'on voit, qui vous sont soumises, sont lamentables. Non, alors,
vous en riez à gorge déployée quand j'avais le mot.
Oui, parce que je suis pas moraliste et ça m'est complètement. Je trouve simplement que dans le choix d'images qui est proposé, il y en a. Elles sont très uniformes et il y en a très peu qui sont censées montrer les choses qui ne sont pas bien. Les dessins sont soumis, on leur donne un rôle, sont limités à un rôle tellement minable, tellement lamentable comme rôle. Le rôle d'un dessin, c'est de faire rire un lecteur entre deux articles. Enfin, c'est ça le dessin qui a eu des gens comme Jacques Callot, ou enfin, je pourrais dire Rembrandt, etc. C'est ça le dessin. Vous pensez que c'est quatre traits faits avec un petit truc pour faire rire les gens? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un moyen très bien, comme la radio, comme n'importe quoi. C'est un moyen très noble, puisque tous les moyens sont nobles. Alors pourquoi les limiter à des rôles minables? Moi, j'essaie simplement de faire des trucs qui m'amusent avec ces dessins. Mais enfin, il ne manque pas une dimension. C'est déjà pas mal, le dessin. C'est mieux que le cinéma, je trouve. Je préfère le dessin au cinéma.
C'était « À coup de cœur » par Michel Bigebois, avec Faisan, Topor, Tim et Desclozeaux. Première diffusion de ses 4e et 5e volets dans les après-midi de France Culture, 21 et 24 décembre 1973.